On va parler maintenant de véhicules qu'on a pas roulé cette année, des véhicules qui nous ont manqué parce que évidemment on a la chance de conduire une panoplie de nouveautés, mais il y en a
plusieurs
quelques...
par semaine bien souvent.
Ouais, il y en a quelques-unes qui nous échappent et moi ma grosse déception de l'année, celle que j'ai vraiment manquée, c'est la Shelby GT500.
Ouais.
C'est vraiment une bagnole qui pique ma curiosité. Une première Mustang de haute performance sans boîte manuel avec une puissance démoniaque de plus de 700 chevaux. Je suis vraiment, vraiment curieux de conduire cette voiture-là. Toi, de ton côté?
Et une voiture qui passe quand même un peu sous le radar, j'ai l'impression. Elle n'a pas été beaucoup publicisée, mais c'est assez...
Encore une fois, évidemment, j'imagine que l'approvisionnement au Canada, le nombre d'unités de Shelby GT500 qui se sont vendues chez nous, ça ne doit pas être beaucoup parce que les usines ont dû cesser, puis c'est pas une voiture de à volume, on s'entend.
Non, on est d'accord. De mon côté, écoute, Antoine, c'est un peu étrange. J'ai toujours pas conduit la Corvette de 8e génération. Je me rappelle que tu avais assisté à son lancement et que tu as pu la reconduire à nouveau, mais on n'en a pas eu des masses ici au Québec. Il n'y en a pas eu de disponibles non plus sur la flotte de presse. Donc, j'ai pu la voir de près au salon de l'auto, mais de la conduire, ça manque encore à ma culture. Et tu sais, j'avais beaucoup apprécié le modèle de 7e génération. On avait tous été surpris au dévoilement du modèle de 8e génération. Donc, ma curiosité n'est pas encore satisfaite, là.
Bon, une autre voiture, moi, qui a piqué ma curiosité et que j'ai bien hâte de conduire, c'est l'Audi RS6 Avant, qui est l'ultime voiture familiale de performance. C'est incroyable. Sauf qu'évidemment, Audi, bon, les gens ne sont peut-être pas conscients de ça, mais Audi Canada ne nous prête pratiquement pas de voiture, sauf à un chroniqueur de l'équipe. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pas évident de mettre la main pour nous sur des véhicules Audi. Et moi, quand j'ai pu essayer cette année, le Q3, la Allroad, par exemple, c'est des voitures que j'ai empruntées chez des concessionnaires. Audi Canada ne prête de voitures qu'à deux ou trois Québécois.
Et sinon, il faut faire appel à des propriétaires de véhicules.
C'est un défi, c'est un défi un peu plus complexe que de mettre la main sur des voitures Audi.
Mais pourtant, la RS6, c'est une familiale extraordinaire.
Absolument.
Et tu sais, chez Mercedes, on a la E63 AMG S qui est également une familiale pour laquelle on n'a aucune raison. Hein. C'est 100%, de la passion. Ben on a recréé ce principe-là.
Et elle est magnifique, RS6.
Voilà.
Donc, c'est vraiment... Moi, c'est un coup de cœur au niveau technique et au niveau esthétique, cette voiture-là, que j'ai bien, bien hâte de découvrir. Les autres voitures qu'on a hâte de conduire, mais qui vont arriver plus tard, évidemment, on en a répertorié quelques-unes. Moi, je commence tout de suite avec la Honda Civic. Qu'on a vu, là, elle a été dévoilée récemment. Esthétiquement, c'est rien pour m'émoustiller, là, on s'entend, là.
On est d'accord, mais ça demeure un véhicule.
Et j'aimerais te mentionner qu'une voiture ne m'émoustille pas. J'ai utilisé ce mot-là pour vraiment signifier le fait que j'étais pas vraiment excité à la vue de cette nouvelle Honda Civic. Mais j'espère tellement qu'Honda va avoir travaillé pour qu'on retrouve un peu de l'essence des anciennes Civic, pour qu'on puisse retrouver juste un peu de passion à conduire une Honda Civic.
Je pense que t'en demandes beaucoup, là.
Et
la passion, on la retrouve dans les versions de performance, mais les versions...
Non, mais je te parle pas d'une Civic.
Mais autrefois, une Civic, même ordinaire, il y avait un petit quelque chose, là.
C'est ça.
Mais là, il n'est plus là,
Seigneur.
ce petit quelque chose.
Il n'est plus là, et j'espère aussi, je suis très curieux de voir ce qu'on va, exploiter comme motorisation là-dedans.
Oui,
parce que...
Est-ce qu'on va faire l'erreur de reprendre le 4 cylindres 1.5 litres?
Moi, j'ai l'impression que oui. Mais Honda, qui est considéré comme un motoriste, nous a prouvé qu'il n'était pas infaillible.
Ouais.
Et même s'ils pensent qu'ils le sont encore, je pense que ce moteur-là, je pense qu'aujourd'hui, 5-6 ans après l'arrivée de la mécanique 1.5 turbo, on peut crier « c'est un flop, c'est une erreur ».
Et le principe d'une erreur, Antoine, c'est quoi? C'est de ne pas la réparer.
répéter.
Exactement. Ouais. Alors, on va voir ce que ça va donner avec, avec cette nouvelle Civic-là, mais je suis bien curieux de conduire ça. Le Bronco.
Ben
aussi.
Oui, voilà, le Ford Bronco qu'on a vu sur la
le
page.
Le vrai, là.
Le vrai, gros. Là, le gros, pas le, le Bronco Sport. Celui qu'on a vu, là, sur la page couverture du guide de l'auto, c'est ouais. le véhicule dévoilé cette année le plus marquant. On a conduit le Bronco Sport, qui est le plus petit dans la famille Bronco, mais le vrai Bronco, celui qu'on attend depuis si longtemps, ben on l'a pas conduit encore et ça va se faire, on l'espère, hein, au courant de l'année 2021. On nous a promis que on nous a dit que les livraisons allaient être repoussées. On sait qu'il y a des délais interminables, des listes d'attente qui débordent parce que oui, il y a un engouement pour un authentique 4x4 comme ça et je suis pas tout seul à avoir hâte de le conduire.
On a été, je veux pas dire insulté, mais que Chrysler ait poussé l'audace à mettre un moteur V8 de 700 chevaux dans un Ram, dans un Durango, dans tout ce que tu voudras. Là, on dépasse...
Tout ça dans les années 20, là.
C'est ça. On dépasse les limites de ce qu'on peut s'imaginer, alors que l'industrie automobile essaie d'être plus propre que jamais. Ben, chez Chrysler, c'est le contraire. Par contre, il y a une lueur d'espoir avec le Wrangler. D'un côté, on va mettre un moteur 392 dedans.
Exactement.
V8.
Donc oui, on a une version là, 4XE qui est sur le point de voir le jour, mais qui, oui, va être hybride, rechargeable. OK, c'est bien, on est content.
Mais moi, c'est la version qui m'intéresse parce que et j'ai très, très hâte de conduire ce véhicule-là. Pourquoi? Parce que le couple instantané de l'électrification dans un contexte de conduite hors route, ça va être absolument génial. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir comment les ingénieurs de Chrysler ont travaillé là-dessus.
J'ai très hâte de te voir te recharger, moi aussi, là, dans le bois.
Ouais.
Et tu parlais du couple du moteur électrique. Ben,
un érablière, là, tu plantes le chalumeau. Ça marche-tu, ça?
Je suis pas sûr. Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Bon. Mais tu parlais du couple de la version 4XE. Du couple, il va y en avoir là, dans la version EMI.
Oui, aussi.
À moteur 6,4 litres.
J'ai comme l'impression que ça va être un peu lourd du museau.
Ça va piquer du nez.
Ouais,
hein?
ça va
piquer du nez, j'ai l'impression. Toujours chez Jeep, hein, il y a le Jeep Grand Wagoneer qu'on a vu cette année, qu'on espère conduire l'année prochaine, parce que les gros véhicules commencent à être vieillissants chez Jeep, on a besoin de se renouveler et c'est un segment qu'on ne couvre pas, hein, les grands VUS chez Jeep particulièrement. Donc de faire revivre le Grand Wagoneer, ça va être particulier.
Et ça va être payant pour le constructeur.
Ah, ça, il n'y a pas de doute.
Deux véhicules électriques rapidement dont on peut faire mention. D'abord, le Mazda MX-30.
Oui.
Est-ce que Mazda va réussir à offrir une formule intéressante avec le MX-30 et surtout un véhicule plus amusant que la moyenne à conduire?
Et est-ce qu'on va être capable de faire avaler la pilule de la faible autonomie et de l'autonomie qui...
On a encore le temps de s'ajuster, honnêtement. Là.
On a le temps, oui, mais est-ce qu'on va nous jouer la carte d'avoir un véhicule peut-être pas trop cher? Ça m'étonnerait parce que chez Mazda, on ne se positionne plus dans cette guerre. On ne se positionne plus comme étant un batailleur dans une guerre de prix. C'est plus là où on est. Donc, je sais pas quelle stratégie on va avoir avec le MX-30, mais ça va être intéressant à surveiller. Mazda qui ne propose pas de véhicules électriques.
Ou
même hybride. Donc, on n'a même pas un petit doigt de verre, là. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite pour le MX-30. Volkswagen ID4 aussi, qui est sur le point de débarquer. On a vu des véhicules être mis à l'essai par des gens de Volkswagen, autant à Toronto qu'au Québec. Donc, ça va être un véhicule très important pour Volkswagen parce que oui, on avait la e-Golf qui est un véhicule électrique de première génération, mais on n'est plus là. Le marché a énormément évolué. Ça va extrêmement vite dans la sphère électrique. Donc, de le voir de près, de le conduire, de connaître son prix, ça va être franchement intéressant et on va suivre ça en 2021.
Quelques produits que j'ai hâte de voir aussi sur le plan visuel. Bon, je vous nomme le Honda CR-V parce que je veux dire, c'est un véhicule d'importance et le Honda CR-V de dernière génération, même si ça a été super populaire, très, très, très je veux dire, ça s'est jamais vendu autant au Canada.
Mais en même temps, le segment LED.
Segment LED, là, mais pour moi, c'est un des moins bons CR-V qu'on a produit pour sa mécanique, pour son côté ennuyant aussi un peu, et parce qu'il a vieilli plus vite que la moyenne. C'est vrai que, bon, il y a eu des CR-V où on a eu des problèmes de châssis qu'on a réglés, mais on est loin de l'époque des CR-V super envoûtants. Moi, je pense la génération qu'on a lancée en 2002, qu'on a gardée jusqu'en 2007, qui pour moi était ma favorite. C'est un véhicule très, très, très efficace. Ça s'est embourgeoisé avec les années, etc. Là, est-ce qu'on va arriver avec un produit un peu plus hors champ? Parce que la tendance est là, c'est-à-dire que Toyota, avec le RAV4, est allé champ gauche au
et
niveau du design.
Ça a déjà été ça. Le service a déjà été un petit 4x4 boxy, comme on dit en français.
Là, je pense pas qu'on va revenir à une formule comme ça pour rivaliser avec un Bronco Sport, mais en même temps, ça pourrait être une belle curiosité. Alors, je suis curieux de voir ça.
Il va falloir qu'on arrive avec l'hybride rechargeable. Il va falloir qu'on embarque dans l'arène à un moment.
Oui, c'est ça, absolument.
Et on parlait de Jeep tout à l'heure. Il y a le Grand Cherokee, il y a le Dodge Durango aussi, deux véhicules qui ça fait encore le travail là, étonnamment.
Mais on sait que le Grand Cherokee, on va le voir d'ici quelques mois, j'ai vraiment hâte.
Ben, ça va faire du bien, parce que c'est ça, la génération actuelle, ta mémoire est meilleure que la mienne, mais on remonte
2011.
2011, voilà. Donc, on arrive en 2021, 10 ans pour un véhicule sur le... aujourd'hui, c'est extrêmement long.
Payant pour Jeep, peu. D'autant plus qu'on en vend encore beaucoup. Et un autre véhicule...
Ça va continuer de l'être, là, payant avec le nouveau, parce que j'ai pas l'impression qu'on va en vendre moins. Là.
Non, c'est ça. Puis, un autre véhicule, j'ai bien hâte de le voir. Moi, j'ai vu des esquisses officielles de ce camion-là. C'est le nouveau Nissan Frontier. On sait que le marché de la camionnette intermédiaire est grandissant.
Bien, est en train de revivre, finalement.
Il y a de la demande.
On a connu un creux, quoi, au tournant des années 2010. Puis ça,
2013, 2014.
Au moment où on a abandonné l'ancien Ranger. Là,
le Ranger, le série B, le Dakota. Il y a plusieurs joueurs qui sont disparus. Mais on est revenu. Et là, nomme une marque, peut-être à part Honda, où les Ridgeline sort un peu moins.
Mais Tacoma, le Colorado... Là,
quand il n'y a pas d'inventaire.
Tout se vend là, facilement.
C'est ça. Puis il n'y a pas d'inventaire. Fait que c'est un marché très intéressant. Et je sais que Nissan a l'intention...
Même le Ranger se vend, tu sais.
Oui, c'est ça. Mais Nissan va débarquer avec un Frontier conçu pour le marché nord-américain. Ouais. Donc, il ne sera pas comme la camionnette Tacoma l'est. Mm-hmm. Parce que la Tacoma, ce n'est pas vendu ailleurs dans le monde. Ce n'est pas une camionnette.
Mais l'ancien Frontier était...
L'ancien Frontier, c'était une Nissan Navara vendue ailleurs.
Mais il convenait à l'Amérique du Nord, non?
Oui, sauf que le marché a évolué.
Oui, tout à fait.
Et on l'avait adapté en ce sens-là. On avait différentes longueurs de caisse. Ouais. Ce qu'on n'a pas avec le Ranger actuel.
Effectivement.
Qui est un véhicule adapté de d'autres marchés. Donc, ça va être bien intéressant de voir ça. Alors, au retour, on parle avec Jacques Duval, qui va nous entretenir sur l'histoire du guide de l'auto.